Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui par le site internet ou les réseaux sociaux. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Bienvenue dans ce temple aux paroissiens fidèles, mais aussi aux personnes de passage qui sont là peut-être pour la première fois. Et pour nous accompagner à l'orgue ce matin, merci à Alexandre Korovitch. Je vous propose d'ouvrir ce culte en prenant le chant du spontané qui s'intitule « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux ». Cela se trouve à la première page du psautier français dans les petites liturgies qui sont mises à votre disposition. Je vous invite à vous lever. Éternel, on nous dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. Éternel, on nous dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont les êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent et le soleil. On nous dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô Éternel, qui m'offre ses voix, ses compagnons et ses mains. Alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ses frères et toutes ses sœurs, parole et présence. Béni sois-tu. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange. Nous prendrons le chant du psaume 95b dans le recueil Le Psautier français. Psaume 95b, et nous chanterons les strophes 1, 3 et 4.
Thank you.
prenez place. Écoutons encore ce que Dieu attend de nous. Nous prendrons cette volonté dans un extrait du livre d'Ésaïe. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Prions ensemble. Éternel, nous venons à toi tels que nous sommes. Examinons-nous intérieurement quand nous entendons ta parole. Comment passe-t-elle dans nos vies? Dans notre intellect? Dans notre esprit? De quelle façon est-ce qu'elle traverse notre personne? Va-t-elle jusqu'à notre cœur? Nous sommes lents à croire et à comprendre tout ce qui te concerne. Parfois, notre cœur est dur comme de la pierre. Nous ne nous laissons pas façonner par ta parole. Pourtant, nous voici devant toi tels que nous sommes. Et nous t'en prions. Continue de nous montrer ta présence et ton amour, non seulement avec ta parole, mais aussi avec les gestes qui éveillent et qui sauvent. Amen.
La mort, le temps.
accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je vous invite à vous unir à cette confession de foi écrite par le pasteur Antoine Nouys. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux » et qui n'avait pas une pierre où poser sa tête. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » et qui a pleuré devant la tombe de son ami. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre » et qui s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés » et qui a touché le lépreux pour protester contre son rejet. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les miséricordieux, car à eux il sera fait miséricorde. » Et qui a arrêté les religieux qui voulaient lapider la femme adultère. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et qui a laissé une femme verser un parfum de grand prix sur ses pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, et qui a refusé de se défendre lorsqu'on est venu l'arrêter. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux » et qui a été injustement condamné et crucifié. Et je crois que cet homme est vivant par son esprit, et qu'il nous appelle à vivre dans l'esprit des béatitudes. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Aujourd'hui, je vous invite à lire dans le Premier Testament, au livre des psaumes, le psaume 95. Je prendrai la traduction de la Colombe. Allons acclamer l'Éternel. Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Éternel, merci pour ta parole. Ta parole qui parfois nous rassure et de temps en temps nous dérange. Mais par cette parole, tu es lumière sur nos vies. Amen. Et dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre maintenant le numéro 171, Cantique 171. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Place. prions. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que les mots de la Bible deviennent pour nous paroles de vie, une parole pour nos vies. Qu'ils soient aussi la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Et si aujourd'hui vous pouviez écouter sa voix, avons-nous entendu au verset 7 du psaume 95. Amis, frères et sœurs, cette exclamation monte du cœur du psalmiste comme un cri qui vient du plus profond de ses entrailles. Et nous y entendons quelque chose de vrai qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ce psaume vieux d'au moins 3000 ans n'a rien perdu de son actualité, surtout si nous jetons notre regard sur les actualités tragiques de ces derniers jours. Dans la Bible, la comparaison la plus simple pour évoquer la présence de Dieu est celle du berger. Dieu est comme un berger qui conduit son troupeau rien qu'à sa voix. Dieu conduit son peuple depuis Abraham et Moïse jusqu'à David, puis jusqu'à nous aujourd'hui, de la même façon qu'un berger. Sans doute parce que les hommes qui ont parlé de Dieu, qui ont raconté leur expérience de Dieu, étaient eux-mêmes des hommes nomades, s'occupant de leur troupeau. Jésus, d'ailleurs, gardera cette comparaison pour lui-même, en particulier dans l'évangile de Jean. Quant à son tour, il annoncera cette bonne nouvelle et il dira « Je suis le bon berger, celui qui entend ma voix et me suit se trouve sur le bon chemin. » Que ce soit Dieu à travers Moïse ou les prophètes ou encore les psalmistes dans le Premier Testament ou Dieu à travers Jésus dans le Second Testament, c'est sa parole qui est adressée aux êtres humains, cette parole que nous trouvons dans la Bible. Et même si les notions de Dieu évoluent à travers les textes bibliques, ce qui est dit de lui révèle quelque chose de particulier, des préoccupations les plus ultimes, les plus intimes des êtres humains. Le théologien Raphaël Picon posait cette question dans l'un de ses éditoriaux pour Évangile et Liberté. Dieu ne serait-il alors qu'une projection humaine ? Une création de l'homme, comme aiment à le soutenir certains athées ? Eh bien, oui. Dieu porte l'empreinte de ce que nous sommes. Ce que nous disons de lui reste toujours marqué du sceau de notre humanité. Et le réformateur Martin Luther disait que c'est la foi qui fait Dieu, montrant par là que Dieu est une réalité relationnelle et qu'il est toujours ce qu'il est pour moi. C'est cette réalité relationnelle que nous trouvons encore plus profondément marquée dans le livre des Psaumes. Ce livre de prières chantées révèle comment le psalmiste parle à Dieu en toute intimité, comme à un ami ou à un père, et comment Dieu prend le temps de s'exprimer envers le psalmiste en employant ce même tutoiement dans une réciprocité remarquable, comme nous venons de l'entendre dans ce psaume 95. Avec ce psaume, il est rappelé que Dieu est à la fois le créateur du monde et de ce qu'il contient, tout en étant le berger de son peuple, peuple qu'il veut guider vers la terre promise, qui n'est pas forcément quelque chose de l'ordre du cadastre, mais plutôt de l'ordre de la métaphore. La terre promise peut alors se comprendre comme l'endroit intérieur de notre personne, où nous nous sentons en paix, loin de l'opposition et du conflit, loin de la division. C'est l'endroit de notre personne où règne la sérénité, la concorde et la joie. La Bible nous raconte que depuis l'alliance scellée de génération en génération avec le peuple d'Israël, Dieu indique aux hommes le chemin à prendre sur lequel nous sommes invités à marcher, nous aussi, aujourd'hui, pour atteindre en quelque sorte, pourquoi pas, la plénitude de notre être véritable. Il nous indique ce qu'il faut faire et peut-être plus encore ce qu'il faut éviter de faire. Mais Dieu, dans les indications qu'il donne, ne reste pas à son seul niveau de Dieu qui serait obligatoirement inaccessible. Il veut nous introduire à une communion avec lui. Et Dieu nous parle comme à des amis de la façon la plus proche qu'il puisse s'exprimer. Si quelqu'un écoute ma voix, il entrera dans le repos que je lui donnerai. Plus tard, dans l'évangile de Jean, Jésus se comparera à un berger conduisant ses brebis vers la plénitude de la vie. Ses disciples connaissent et écoutent sa voix. Il leur parle de la vie éternelle. Il promet à celui ou celle qui consentira à le recevoir dans sa vie et à le suivre de recevoir cette vie éternelle qui n'est pas forcément un lieu hypothétique, mais plutôt une qualité de relation, une profondeur de relation, quelque chose qui pourrait résulter de la rencontre personnelle que l'on peut faire de lui, avec lui. Ce sont des paroles que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous. Mais est-ce qu'elles ont encore un sens pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous écoutons ce que nous appelons la voix de Dieu pour chacune de nos vies? Et puis d'abord, est-ce que nous croyons que Dieu parle encore? Si oui, de quelle manière? Est-ce par une voix au fond de nous qui ne cesserait de nous presser à aimer, mais aussi à accomplir ce qui est bien ou ce qui est bon, ou de nous avertir pour éviter de faire quelque chose de mal? Ce n'est pas sûr. Chacun pourra donner seul une réponse individuelle, positive ou négative. Et quand Dieu parle à notre cœur, que devons-nous faire? Écouter. Tout simplement. Cela semble être d'une simplicité désarmante. Mais si nous approfondissons ce petit mot « écouter », alors nous découvrirons que dans le langage biblique, « écouter », cela veut dire « adhérer complètement », sans aucune restriction. « Écouter » signifie aussi se laisser façonner et pourquoi pas transformer par cette parole. Écouter relève alors de l'attitude confiante, de cette confiance absolue dans les grandes comme dans les petites choses de la vie. Si seulement vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui même, puissiez-vous écouter sa voix, dit le psalmiste. Mais écouter la voix de Dieu, c'est se souvenir des promesses, comme celle d'être là auprès de nous jusqu'à la fin du monde, de nos mondes. C'est prendre au sérieux pour nous-mêmes les paroles d'alliance, de proximité, chargées d'une promesse de vie à profusion pour celui ou celle qui veut bien les recevoir. Les évangiles nous racontent, à une autre époque, que le Dieu que révèle Jésus-Christ est un Dieu qui se livre à l'humanité, une humanité qui se raconte à travers ce que nous sommes. De guérison en pardon, de miracles en événements, de relèvements de toutes sortes, Jésus nous invite à croire en un Dieu qui se révèle en notre humanité ouverte au meilleur d'elle-même. Tout cela, nous l'avons déjà entendu, mais est-ce que nous l'avons vraiment écouté? C'est alors que le psaume 95 se poursuit « N'endurcissez pas votre cœur ». Cette exhortation ponctue régulièrement le message des prophètes. Elle se retrouve dans la bouche du psalmiste comme une prière de Dieu à l'être humain. Une manière de dire « Vous souhaiteriez tellement être exaucé dans vos attentes, vos demandes, vos prières, mais en retour, exaucez-moi en n'endurcissant pas votre cœur ». Et le psalmiste reprend alors l'épisode de Massa et de Meriba, lorsque le peuple d'Israël avait contesté Moïse et poussé le Dieu de Moïse dans ses retranchements en le forçant à faire un miracle. Et parce que le peuple avait soif, alors Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher à l'Horeb pour que l'eau puisse en jaillir. Massa veut dire la tentation en hébreu. Et Meriba, la discorde. Ce jour-là, le diviseur était à l'œuvre. La dureté de notre cœur est toujours d'actualité, comme cela l'était au temps de l'Exode, ou de la rédaction de ce psaume, ou encore au temps de l'exil, par exemple, quand les prophètes disaient au peuple d'Israël, en exil à Babylone, « N'endurcissez pas votre cœur ». Nous nous rappelons ces paroles du livre d'Ézéchiel, méditées la semaine dernière. « Revenez à moi, je vous enlèverai votre cœur de pierre, je mettrai à la place un cœur de chair. » Autrement dit, un cœur bien disposé à recevoir ma parole et à la mettre en pratique dans la confiance. C'est ce que nous avons essayé de comprendre dimanche dernier. Et quand il parlait en parabole, Jésus reprenait à son tour les paroles du prophète Ésaïe. « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas, car le cœur du peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Ne durcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Nous pouvons résister, nous fermer. Nous pouvons refuser de nous laisser façonner. Nous pouvons demeurer insensibles, parfois même jusqu'à l'anesthésie. Parfois il le faut quand c'est trop dur. Il le faut pour ne pas sombrer dans un certain marasme. Serions-nous alors des gens de mauvaise volonté ? Ou alors des personnes de mauvaise foi ? Pas forcément. En réalité, notre cœur est encombré par beaucoup de choses. Peut-être trop d'images extérieures qui nous agressent. Peut-être trop de bruit au dehors qui nous empêche d'entendre cette parole correctement. Peut-être trop de brouillages intérieurs qui nous font nous comporter d'une façon désordonnée. Nous nous laissons atteindre par des mondes qui facilitent la confusion dans notre être intérieur. Il arrive aussi que notre cœur soit encombré par la tristesse, la mélancolie, la déception, peut-être l'impuissance, simplement, de voir tant de souffrances, tant de malheurs devant lesquels nous avons l'impression de ne rien pouvoir faire. Nous sommes touchés par la mort prématurée d'un parent ou d'un proche qui nous bouleverse, qui nous déstabilise. Nous sommes tentés de mettre nos engagements de côté, d'abandonner notre combat. Nous avons envie de nous replier sur nous-mêmes et d'ignorer cette voix de Dieu qui pourtant nous appelle à continuer. Mais c'est notre liberté d'ignorer cette voix. Le risque que nous encourons en l'ignorant, c'est peut-être de ne pas trouver le repos, de ne pas être en paix, nous dit le texte. Une prière de notre liturgie introduisait la lecture de la Bible par ces mots. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que nous faisons encore silence en nous-mêmes pour entendre cette voix de Dieu? Et que nous dit-elle cette voix à propos des plus petits, des plus pauvres, des étrangers, des exclus? Que nous dit-elle cette voix à propos de l'injustice ou des rites religieux? Entendons-nous encore quelque chose? Fais taire toute autre voix que la tienne, cela nous renvoie à nous-mêmes. Faisons taire en nous tout le brouhaha extérieur pour y découvrir la voix de Dieu que j'appelle discernement. Notre monde bouillonne de violence. Notre société est traversée par des tensions. Des événements dramatiques nous bouleversent et nous interrogent. Nous sommes conscients et en même temps abasourdis par les cafouillages, les dérapages de toutes sortes. Peut-être même nous sentons-nous prisonniers des idées des autres, influencés par des propos délétères qui mettent à mal notre capacité à réfléchir ou qui excitent notre vengeance qui nous empêche de discerner. Au milieu de tous les brouillages de toutes sortes, prenons le temps de nous remettre au diapason de l'Évangile dans le sens de bonne nouvelle. Cela offre à chacun, chacune, de se décentrer de soi pour se recentrer sur un autre, sur le tout autre. Prendre du recul, cela peut se dire aussi par lâcher prise, ou encore se mettre à distance des soucis du monde pour mieux les entendre, mieux les accueillir, mieux y répondre. Fais taire en nous toute voix que la tienne. Alors, nous pourrons peut-être faire nôtre cette prière écrite par la pasteur Lita Basset. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, quand mensonges et demi-vérités brouillent toutes les pistes, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudain s'embrasent, quand la compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus, nous te louons, Père, pour ta parole, sainte, crédible, fiable. Et elle continue en disant, avec Simon-Pierre, nous confessons, Seigneur, à qui irions-nous? Au Christ, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Amen. dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre maintenant le cantique numéro 390, cantique 390. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à vous lever. Merci. Alors, c'est maintenant le moment des annonces. Alors, je me tourne vers quelqu'un, peut-être, soit de l'entraide, soit... Ou alors, je me tourne seulement vers moi-même pour les annonces. Bon, ceci dit, je peux le faire, c'est assez court. En ce sens que, après le culte, vous êtes invité au verre de l'amitié qui se tiendra dans la grande sacristie. Et donc, exceptionnellement, je saluerai tout le monde de ce côté-là et non pas de ce côté-là. Donc, voilà. Mais un verre de l'amitié vous attend. Ensuite, la pause spirituelle de la semaine prochaine sera donc organisée et conduite par ma consœur Béatrice Cléromazir, qui sera avec vous toute la semaine prochaine, parce que moi, je m'en vais quelques jours dans ma famille, tout à l'heure. Écoutez, de mémoire, c'est tout ce que je vois. Il y a sûrement quelque chose d'autre, mais dans ce cas-là, même si quelquefois la newsletter comporte quelques erreurs d'horaire, eh bien, reportez-vous quand même à cette lettre de nouvelles qui va paraître prochainement, incessamment, sous peu. Voilà. Alors, nous continuons par un autre geste liturgique et pas le moindre, celui de l'offrande. Vous savez que notre Église ne vit que de dons, les vôtres, les nôtres. Et donc, pour qu'elle continue sa mission auprès de chacun, chacune, eh bien, que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Et en route pour le don joyeux. Et au moment de nous unir pour partager la Sainte Cène, je vous invite à la prière. Éternel Dieu de la vie, nous sommes plongés dans des discordances humaines. Mais à ton appel, en Jésus le Christ, nous relevons la tête. Notre humanité est comme un désert où, malgré la tranquillité et le bien-être des uns, règne pour les autres la pénurie, l'inquiétude et pour certains le chagrin du désespoir. Mais par Jésus le Christ, tu répands la rosée de ta paix, de ta justice et de ta consolation. Notre société est pleine de tensions et d'événements tragiques qui nous bouleversent et nous interpellent. Mais toi, Éternel, par Jésus le Christ, tu viens féconder nos aspirations, tu nous ouvres des chemins de fraternité. Quand nos cœurs sont alourdis de peur et de lassitude, en Jésus le Christ, tu nous redonnes courage et persévérance. car il nous invite encore et toujours à marcher dans l'amour. Alors, nous venons et nous nous rassemblons autour de la table où chacun peut prendre place et goûter à la bonté de tes dons. Nous venons, quelles que soient nos appartenances ou nos croyances, du moment que nous voulons témoigner ensemble de notre confiance en ce Jésus qui partageait le pain, les joies et les souffrances des humains et enseignait ainsi la liberté et la solidarité. Alors, le cœur en éveil, malgré nos déceptions et nos lassitudes, nos impuissances et nos solitudes, dans l'espérance de ce temps nouveau que ta grâce éveille en notre terre, avec tous ceux rassemblés au nom de Jésus le Christ, notre frère, nous te chantons et nous prenons le répond de la Sainte Cène. Pars-toi pour une fête. Nous restons assis. Jésus se mit à table et ses amis avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Prions. La table est mise, Seigneur. Nous avons partagé ta parole. Elle a remis notre vie à l'heure. Et dans un instant, ton appel « Venez, car tout est prêt », va nous inviter à partager pain et coupe en mémoire de toi. Pain et vin réels, autrefois épis et grappes dans nos campagnes. Les voici offerts pour attester que ton amour et ton royaume sont aussi réels pour nous. Avec nos frères et sœurs, ayant partagé la paix qui vient de toi, nous voici assemblés et faits ensemble par toi, corps du Christ. Que ton esprit fasse de ce moment privilégié un moment de joie, une minute anticipée de ton royaume. Que vienne dans cette attente le jour où nos divergences théologiques ne nous retiendront plus en table séparée. En communion invisible avec celles et ceux qui, avant nous, ont communié quelque part à ce pain, à cette coupe, nous attendons dans l'impatience de nous retrouver tous au banquet de ton royaume. Et c'est dans cette confiance que nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versée pour tous. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Que ce repas, Seigneur, nous donne un nouveau regard sur le monde. Après avoir partagé la scène, nous te rendons grâce en ayant ce regard nouveau sur les êtres humains. Nos frères et nos sœurs, un regard comme ton regard, en confiance, en reconnaissance et en encouragement. Et amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne vers vous sa face et vous donne sa paix. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche. Vous retrouverez Béatrice la semaine prochaine et à bientôt.